BFM Business présente...
Tous les jours, j'entends quoi ? De nouvelles solutions, de nouvelles entreprises, de nouvelles levées de fonds. Mais c'est extraordinaire. Mais
vous avez dit qu'il y a un vrai souci, alors... il faut créer de l'emploi.
Je suis assez d'accord avec ce qui a été dit.
Il suffit d'écouter BFM Business.
Voilà, magnifique.
Thomas Asportas, Good Evening Business.
Bientôt 18h sur BFM Business, bonsoir à toutes et à tous. Soyez les bienvenus dans Good Evening Business. Dans l'actualité ce soir, on a... La Cour des comptes qui n'est pas du tout convaincue, c'est le moins qu'on puisse dire, par les 30 milliards d'euros d'économies annoncées par le gouvernement. On est loin du compte, nous dit en résumé la Cour dans son rapport annuel. On va évidemment vous raconter tout ce soir dans Good Evening Business. Ce sera après la grande interview d'Edwige Chevrillon qui reçoit ce soir l'ancien ministre des Affaires étrangères Hubert Védrine après le vote de l'Assemblée qui est en cours sur le soutien de la France à l'Ukraine. Ce sera à partir de 18h10 et puis à 18h30, nos experts arrivent et on a encore ce soir beaucoup de sujets à analyser et débattre ce soir dans Good Evening Business, et notamment l'adaptation de la France au changement climatique. Ça aussi, ça a été regardé de près par la Cour des comptes dans son rapport annuel, et là aussi, vous allez voir qu'on est loin du compte. Et puis, cette question qu'on se pose ce soir, est-ce que l'État doit être géré comme une entreprise, comme dans le privé? C'est la question qu'on se pose. Après, vous allez voir la pique d'Emmanuel Macron ce matin aux 700 plus hauts fonctionnaires du pays. Il leur demande de prendre des risques, il leur demande d'avoir des résultats, d'avoir les mêmes méthodes que dans le privé. Est-ce que l'État doit être géré comme une entreprise? Est-ce que l'État est une entreprise comme une autre? On verra ça, là aussi, à partir de 18h30 avec nos experts. Voilà le programme de Good Evening Business. On est en direct jusqu'à 20h.
Good Evening Business, le journal.
Et on commence donc avec le chiffre du jour, l'inflation américaine en février. On retrouve Aude Kersulec en direct de Euronext. Bonsoir Aude. Chiffre évidemment très attendu. Bonsoir. À une semaine de la prochaine réunion de la Fed. Et visiblement, l'inflation américaine n'arrive pas à redescendre sous les 3%, Aude.
Alors, dans une première approche, les chiffres ne sont pas miraculeux. Ouais, c'est vrai, tout juste dans les attentes hein, pour l'inflation globale à 3,2% pour un an pour le mois de février. Ça accélère par rapport au mois précédent hein, de un dixième. Et on peut concéder autre mauvais élément que l'inflation sous-jacente, donc quand on enlève l'énergie et l'alimentation, fait moins bien que prévu. Hein. C'est l'inflation qui est généralement la plus dure à faire redescendre. Elle est toujours à 3,8%, c'est plus qu'en Europe, hein, où elle est tout juste au-dessus de 3%. Mais dans le détail de ces chiffres, hein, les raisons de cette légère hausse par rapport au mois précédent, elles n'inquiètent pas les investisseurs. En fait, ce sont des hausses de prix de début d'année, si vous voulez, dans les services, dans les loyers, ou encore dans les voitures d'occasion, dans les billets d'avion, des rattrapages qui sont liés à la saisonnalité et pas tellement une nouvelle accélération de l'inflation. C'est comme ça en tout cas que choisissent de le voir les marchés, qui restent toujours très optimistes et qui tablent toujours d'ailleurs sur une baisse de taux pour la Fed dès le mois de juin. Pour eux, ça ne bloquera pas hein, l'action de la Banque centrale américaine.
Merci beaucoup Aude Kersulec, on vous retrouve dans 5 minutes pour faire un point sur les marchés en direct d'Euronext. L'autre driver des marchés justement en ce moment, vous le savez, c'est l'intelligence artificielle. Et Emmanuel Macron, justement, va recevoir demain un rapport très attendu pour que la France accélère dans le domaine. Bonsoir Frédéric Simotel, vous avez eu accès à ce rapport pour BFM Business. Quelles sont ses principales mesures ?
25 propositions pour faire de la France l'un des grands pays de l'intelligence artificielle. Voilà ce que les 15 personnalités qui ont été retenues pour rédiger ce rapport ont tiré comme conclusion. Parmi ces conclusions, il y a 6 grandes lignes d'action qui vont être entreprises autour de la formation. Aujourd'hui, on dispose de 15 000 ingénieurs spécialisés en intelligence artificielle. Il en faudrait 60 000 à l'horizon 2030. Donc, il faut accélérer de ce côté-là. Le financement de l'innovation, lui aussi, est important. Il faut multiplier par 3 les financements actuels. Il faudrait atteindre 5 milliards d'euros par rang de financement autour des start-up, autour des centres de recherche, autour des entreprises, autour de l'intelligence artificielle. Et pour cela, il faut attirer davantage de fonds d'investissement étrangers. Et bien, ce rapport décrit quelques moyens, quelques pistes pour les attirer. On a un enjeu sur la puissance de calcul avec le supercalculateur Jean Z, mais aussi d'autres supercalculateurs arrivés. En fait, parmi toutes ces grandes lignes d'action, ce à quoi veulent arriver ces experts, c'est une hausse du PIB qui pourrait être comprise entre 250 et 420 milliards d'euros d'ici 2030. 50 d'ici 2035. Voilà ce que l'on retient de ce rapport. Et puis, dernière chose, il y aura un sommet de l'intelligence artificielle. Ce sera début 2025. Ce sera un sommet international qui se déroulera ici même à Paris.
Merci beaucoup Frédéric. Bientôt 18h04 sur BFM Business. On poursuit avec ce plébiscite du télétravail en France chez les cadres. Si l'on en croit la dernière étude publiée par l'APEC, l'Association des cadres, publiée ce matin, qui nous dit que 2/3 des cadres télétravaillent au moins 1 jour par semaine et 1/4 plus de 2 jours par semaine. Et pour eux, visiblement, il est inenvisageable de revenir en arrière. Caroline Morisseau.
Pour les cadres, le télétravail n'est plus une option mais un acquis, à tel point que près de la moitié d'entre eux, 45% précisément, seraient prêts à démissionner si leur entreprise y mettait fin. Une proportion qui monte même à 57% chez les plus jeunes de moins de 35 ans. Même chose en ce qui concerne les embauches. Là encore, le télétravail est devenu un critère rédhibitoire. Plus de la moitié des cadres refuseraient de rejoindre une entreprise qui ne propose pas de travail à distance. Il faut dire que la pratique a fini par s'installer partout, même dans les très petites entreprises. 54% des cadres assurent télétravailler régulièrement. Certains redoutent pourtant les conséquences sur leur évolution professionnelle. Plus d'un tiers craignent de rater des informations importantes. Un tiers encore a l'impression qu'à distance, leur manager voit moins leur charge de travail. Pour autant, pas question pour ces salariés de faire marche arrière. Comme le résume le patron de l'APEC, le télétravail est devenu une composante structurelle de l'organisation du travail. Une entreprise qui y mettrait fin risquerait de perdre ses meilleurs talents.
Caroline Morisseau. Et puis pour finir, dans l'actualité des entreprises, on a aujourd'hui cette grosse structuration annoncée chez Maisons du Monde, qui a publié ce matin un résultat net annuel en baisse de 74% et qui veut passer 30% de son réseau en franchise. On voit ça avec Pauline Tadevin.
Après un avertissement sur résultats en octobre, Maison du Monde confirme que cela ne va pas bien. Les ventes baissent de 9% sur un an. C'est dû au contexte géopolitique, à l'inflation et à une baisse de la confiance des consommateurs d'après la direction qui ambitionne d'ici 3 ans de restaurer la croissance et de générer de plus en plus de cash flow libre. Elle met l'accent sur l'efficacité financière avec aux commandes un nouveau directeur financier qui fait partie du comité exécutif et qui travaille donc avec le nouveau patron depuis un an, François Melchior de Polignac, un ancien de chez Carrefour. Objectif, 85 millions d'euros d'économies brutes en 3 ans. Cela se traduit notamment par le passage en affiliation ou en franchise de 30% du parc des 340 magasins qu'exploite le groupe au 31 décembre. La direction a par ailleurs dans son viseur une 50aine de magasins pas assez rentables. Dans le communiqué, elle parle de fermeture ou de transfert. Elle précise que la fermeture définitive ne touchera qu'une infime partie du parc et qu'elle compte travailler d'abord sur la renégociation des loyers ou encore sur le déménagement de certains points de vente du centre-ville vers les zones en périphérie.
Pauline Tadevin, 18h06, on va sur les marchés. 18h07, on retourne à Euronext, retrouver Aude Kersulec. Rebonsoir Aude, le CAC a fini dans le vert ce soir.
Eh oui, je vous parlais de marché optimiste tout à l'heure, même après l'inflation américaine qui a du mal à redescendre. On a fini sur un nouveau record ce soir sur le CAC 40, record de clôture, 8087 points. Donc jamais le CAC 40 n'avait clôturé aussi haut. Et pendant la séance, on est aussi allé chercher un record pas très loin des 8100 points, 6 points de 8100, 8080 à 14 points. C'est la course au record qui reprend après déjà la semaine passée. L'euro Stoxx 50 ou le DAX 40 n'y était pas loin non plus. Wall Street se porte aussi très bien après cette inflation américaine avec un beau rebond de la tech et aussi de Nvidia. Vous savez que rien ne se fait sans Nvidia. Le Nasdaq prend 0,8%. Et dans les valeurs qui montaient aujourd'hui au sein de l'indice parisien, on notera notamment Renault ou Alstom, une belle percée, hein, notamment des valeurs industrielles. Donc une hausse de 0,8% ce soir et donc ce nouveau record de clôture, 8087 points.
Nouveau record en clôture et effectivement on se rapproche maintenant de la barre des 8100 points. Merci beaucoup Aude Kersulec en direct d'Euronext. On jette un coup d'œil rapide aussi au marché américain. Le Dow Jones est lui aussi dans le vert, on gagne 0,21% à 38 850 points. Le Nasdaq quant à lui gagne un peu plus de terrain, on gagne quasiment 1%, plus 0,87% à 16 159 points. 18h08 sur BFM Business, on marque une pause et dans un instant l'ancien ministre des Affaires étrangères Hubert Védrine est l'invité d'Edwige Chevrillon dans la grande interview. À tout de suite.
BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview.
Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. Mon invité de ce soir, c'est Hubert Védrine, l'ancien ministre des Affaires étrangères. Bonsoir Hubert Védrine.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Beaucoup de questions à vous poser, évidemment, parce que en ce moment, il y a un débat à l'Assemblée nationale, un débat qui se veut politique pour certains. On y reviendra largement. On parlera évidemment de Gaza, des solutions, est-ce qu'elles existent ou pas. On parlera de votre livre, un nouvel ouvrage que vous avez, un ouvrage collectif autour des grands diplomates. D'abord une question, Hubert Védrine, le risque géopolitique qu'on voit ici avec beaucoup de chefs d'entreprise qu'on interroge, c'est vraiment le premier risque. Qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui pour les rassurer, ou alors ce que vous lui dites, écoutez, il y en a encore pour longtemps?
Ça dépend de leur domaine d'activité, parce que beaucoup considèrent que le risque écologique est passé devant. Ça, oui, ça dépend de ce qu'ils font, en fait. Mais moi, j'ai constaté, avec beaucoup de chefs d'entreprise remarquables et très grands, mais aussi des PME de haut niveau, c'est qu'ils ont intégré ça. Les dernières années, ils avaient un peu oublié mondialisation globale, la géopolitique est moins importante, mais ils ont intégré ça. Alors après, ça dépend de ce qu'ils font, dans quel pays, etc. Mais c'est présent dans la tête de tous, et ils le savent. Oui. Et ils savent, pour le moment, à mon avis, comment gérer, même si on est devant une année particulièrement chahutée, notamment à cause de l'hypothèse Trump.
L'hypothèse Trump, on en parlera, mais d'abord je voudrais qu'on parle de ce débat à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il fallait un vote, sachant que le vote est non contraignant, que ce soit les opposants, que ce soit Marine Le Pen, ou du côté de chez les filles, ils disent, voilà, c'est uniquement un vote politique que vous demandez par rapport aux élections européennes. Est-ce que pour vous, il fallait un vote sur cet accord de sécurité qui a été fait entre la France et l'Ukraine?
Alors, en effet, ça porte là-dessus, en principe.
Oui, bien sûr, en principe.
L'accord de sécurité, qui n'est pas un accord militaire contraignant, hein. À mon avis, il n'y a d'ailleurs aucune raison de voter contre l'accord en question. Mais je trouve que, compte tenu de l'évolution des choses, c'est pas mauvais qu'il y ait un débat, même si le vote n'est qu'indicatif après. Mmh. D'ailleurs, je l'avais demandé, Jean-Pierre Chevènement, il y a
quelques
temps.
Absolument.
Si, en revanche, on devait aller un jour plus loin, mais on n'est pas tout à fait dans cette hypothèse, il faudrait des votes formels, et pas spécialement en France. On est un protagoniste sur 27, ou 28 si on introduit l'Ukraine.
Vous voulez dire, si un jour on doit envoyer des troupes après, les troupes en Ukraine, là, il faudrait quelque chose de contraignant, un vrai vote.
Oui. Bien sûr. Oui, mais non. Apparemment, on n'est pas dans cette hypothèse, en fait. Les explications données, le fait que Biden ait dit lui-même, les Ukrainiens ne demandent pas de troupes, les explications de Zelensky dans Le Monde de cet après-midi, qui sont très claires.
Oui, chez nos confrères de BFM TV, hier soir.
Il parle de coopération, il parle d'entraînement, il parle de formation, il parle de cyber, réponse aux cyberattaques. On n'est pas du tout dans le domaine de l'engagement terrestre, car apparemment, d'ailleurs, on l'a vu après, personne ne soutient en Europe. Il n'empêche que ce qu'a dit le président peut provoquer dans les esprits la prise de conscience du caractère dangereux, tragique. Donc, conclusion, moi, je trouve ça plutôt bien qu'il y ait un débat qui est indicatif, mais on est un pays d'un ensemble.
Oui, parmi d'autres, oui. Bon,
ça n'a pas de conséquences directes. Mmh. En plus, c'est le débat sur le fond, il faudrait le compléter par l'analyse des sondages sur l'opinion en général, parce que là, c'est le positionnement des partis qui se regardent les uns les autres.
Absolument.
Dans une campagne européenne. Donc, ça réduit un petit peu la signification, mais c'est pas inutile.
Oui. Je ne sais pas si vous avez écouté, mais sans doute, le discours du Premier ministre, Gabriel Attal, très offensif vis-à-vis de la Russie. Il dit, nous sommes à un point de bascule. Est-ce que, vous direz, du reste, il y avait l'ambassadeur d'Ukraine qui était présent dans l'hémicycle au moment de cette discussion. Est-ce que, pour vous, nous sommes vraiment à un point de bascule où on voyait, il y a quelques jours, on était très pessimiste. Hier, Volodymyr Zelensky nous a un peu rassurés, si j'ose dire, en disant, on sent que sur le front est mieux tenu.
Il y aurait bascule dans l'hypothèse où l'armée ukrainienne craquerait face aux offensives. Vous vous rappelez qu'il y a un an, tout le monde s'attendait à ce que l'Ukraine gagne.
Oui, avec son offensive.
D'ailleurs, le débat à l'époque aux États-Unis, c'est jusqu'où les soutient-on? Donbass, sans doute. Crimée, sans doute pas. Ça, c'est le débat, pas en Europe qui est manichéenne sur ces sujets, mais aux États-Unis. Là, on est dans la situation inverse. Donc, c'est pas anormal de se poser la question, qu'est-ce qu'on ferait, mais Léon est collectif. On ne peut pas imaginer sans les Américains dans la situation d'aujourd'hui. Donc, ça concerne chaque protagoniste. Donc, il y aurait bascule. Je pense qu'il y a bascule maintenant. Il pourrait y avoir bascule. Si l'armée ukrainienne dit on va reculer devant l'armée russe. Et là, les Américains, avant même nous, quels que soient nos efforts et notre bonne volonté, seraient renvoyés à l'engagement de Biden depuis le début. On ne veut pas être entraîné dans la guerre à la Russie, etc. Mais on empêchera Poutine de gagner en Ukraine. Là, le risque existe.
Comment vous jugez, alors certains parlent d'aller-retour, les positions d'Emmanuel Macron? Zelensky disait hier, Vladimir Poutine a personnellement trompé Emmanuel Macron. L'ancien président de Russie, Dmitri Medvedev, vient de faire un tweet insultant vis-à-vis du président de la République française en le traitant de trouillard zoologique parce qu'il a décalé sa visite à Kiev. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'il y a des allers-retours? Est-ce que la position d'Emmanuel Macron est ambiguë? Quelle est votre position, Hubert Védrine?
D'abord, je ne juge jamais les positions des présidents. Je peux donner mon avis sur ce qu'il faudrait faire si on veut bien l'écouter. Je ne juge pas non plus l'action des ministres. Et globalement, je pense que c'est devenu très, très compliqué de gouverner les démocraties. Ça, c'est un commentaire général.
Général, oui. Bon.
Après, vous observerez que tous les protagonistes, à commencer par Zelensky, qui n'avaient pas les mêmes positions au tout début, ont évolué, se sont adaptés. Donc c'est un petit jeu, il ne faut pas concentrer que sur la question française.
Oui, mais il y en a qui est le chef de l'État quand même. Donc
Bien sûr, mais le chancelier Scholz est chancelier de l'Allemagne aussi, etc. Donc ils ont tous évolué en fonction de la situation. Et à mon avis, malgré les évolutions que vous soulevez, la ligne est restée celle de Biden du début. On empêchera Poutine de gagner. Il se peut que la question se pose maintenant. D'où le risque de bascule, d'où la nécessité d'une réponse pour rétablir un rapport de force qui obligerait la Russie à renoncer, un jeu, etc., etc. Bon, donc on est dans cette situation et c'est difficile de différencier parce que en dehors de quelques partis, disons plutôt pays ou partis ou commentateurs qui veulent aller plus loin, c'est-à-dire quasiment assumer le risque de la guerre à la Russie. Il y en a beaucoup dans les débats d'information continue, notamment en France, par exemple. Mais ce n'est pas du tout la ligne américaine, ça.
Ah non, loin s'en faut.
Donc on est plutôt sur la ligne américaine, sauf que compte tenu du risque, alors vous dites, le risque est moins grand qu'à quelques jours, mais ça c'est la micro-conjoncture. On est quand même dans l'hypothèse, qu'est-ce qu'il faut faire pour empêcher éventuellement l'effondrement de l'armée ukrainienne? Donc ça c'est le contexte général.
Bien sûr. Ah, justement, par rapport à ce contexte général, est-ce que pour vous il est important que on trouve un accord, que ça soit négociation, que ça soit la victoire de l'un ou l'autre, espérons que ça sera quand même celle de l'Ukraine, avant les élections américaines? Parce que là, tout peut changer. Si jamais, c'est Donald Trump qui est élu. Vous êtes d'accord avec moi?
Mais non, c'est impossible. D'abord, le 11, c'est qui? Personne n'a les moyens de convaincre Poutine de négocier alors qu'il est plutôt en position de force.
Erdogan, le président turc, qui a dit qu'il était prêt à les recevoir.
Il y a les Turcs et d'autres pays qui s'en mêleront, les Chinois, les Indiens, d'autres pays, en disant « on est disponible pour ». Mais Poutine n'a pas du tout intérêt, même s'il le voulait, j'en sais rien en fait, entrer dans une négociation quelconque avant l'arrivée de Trump, qu'il espère. Ouais. Si finalement Biden est réélu, malgré tout, ce qui est possible aussi, pour Poutine, c'est moins évident. Et il sera peut-être ouvert à ce moment-là, une sorte, même pas de négociation, mais d'arrêt des combats. Mais je ne vois pas de cas de figure qui débouche sur une négociation aujourd'hui. D'abord, les Ukrainiens ne le demanderont pas, parce qu'ils espèrent toujours tenir bon et regagner. Et Poutine n'est pas disponible. Donc, il faut analyser ça en fonction des intérêts de la Turquie ou de l'un d'autre.
Il y a le pape qui a demandé, le pape a demandé, parce qu'on hisse le drapeau blanc.
Il est dans son rôle, là, le pape. Et de toute façon, il ne peut pas l'imposer. Et jamais les Ukrainiens accepteraient de s'arrêter là. Et même Poutine n'a pas intérêt. Donc, c'est une sorte d'évocation. Alors, il y a des papes, dans certains cas, qui font des déclarations qui ont un impact géopolitique, mais là, on est plutôt dans une sorte d'abstraction papale, vous voyez.
Hubert Védrine, tout à l'heure, Gabriel Attal, sans doute dans son discours, très offensif, encore une fois, par rapport à la Russie, qui n'a reculé contre aucune exaction, aucun crime, 10 000 civils tués, la politique de la terre brûlée, et qui a dit, alors sans doute aussi pour que les Français se sentent concernés, en disant, mais il y a un vrai risque sur le pouvoir d'achat des Français, parce que la Russie est le premier producteur de céréales et de blé, l'Ukraine en est le deuxième. Imaginez si jamais la Russie prenait le contrôle de l'Ukraine. À ce moment-là, il y aurait vraiment une OPA sur l'ensemble des blés dans le monde entier. Est-ce qu'il y a un vrai risque économique?
Il n'y a même pas besoin d'évoquer ce risque pour considérer que ce n'est pas possible de laisser Poutine gagner en Ukraine. C'est le cas depuis le début. Rappelez-vous que d'ailleurs l'exportation des céréales auxquelles fait l'Union était empêchée au début. Ouais. Et finalement, les Ukrainiens ont beaucoup d'astuces, de courage, de roublardise, de technologie et d'aide américaine, ils ont réussi à resécuriser pour eux l'ouest de la mer Noire. En tout cas, insécuriser l'ouest de la mer Noire par rapport à la flotte russe qui n'est pas loin. Donc on est moins dans ce cas de figure qu'en 2022, 2023. Mais il n'empêche que Oui, il y a un risque russe indirect en réalité pour nous, et tout doit être fait pour qu'il reste indirect, pas direct. Oui. Ce qui nous renvoie au rétablissement de l'équilibre des forces en Ukraine, qui doit être fait avec les efforts des Européens et des Américains. Il ne faut pas se résigner à l'idée que les Américains sont hors jeu, sous prétexte que Biden est coincé au Congrès et que Trump va revenir. Il faut absolument réimpliquer, d'autant qu'il y a un sommet de l'OTAN dans 3-4 mois.
Absolument.
À quoi va-t-il servir? Il faut réimpliquer les Américains qui ne sont pas en Europe pour des raisons de philanthropie. Ça fait partie du statut mondial des États-Unis.
Oui, mais justement, est-ce qu'ils ont encore envie de jouer ce rôle-là? Enfin, c'est un de vos sujets de prédilection, Hubert Védrine, mais est-ce qu'ils ont encore besoin envie de jouer ce rôle-là?
Il y a toujours une tendance, disons, isolationnisme, enfin plutôt dans la tête qu'en vrai.
Okay.
Depuis que les Américains ont été obligés de venir en 1917, puis à nouveau après Pearl Harbor, ils n'ont jamais été vraiment. Et d'ailleurs, les républicains trumpistes, ils sont dans une incohérence totale, parce que leur problème numéro un, c'est la Chine. Mm-hmm. Sans arrêt. Ils commencent à dire, l'Europe, on s'en fiche un peu. Ouais. S'ils n'arrivent pas à appliquer
déjà Obama,
l'engagement de Biden, on empêchera Poutine de gagner en Ukraine. Ils ne vont jamais impressionner la Chine. Ouais. C'est fini pour eux.
Ouais, ils ne connaissent que le discours de force, en tous les
cas. Donc je pense que même les républicains les plus obtus devraient être sensibles à ça. Il ne s'agit pas des Américains sans nous. Il faut combiner.
Bien sûr, il faut quand même qu'il y ait l'Europe. Enfin, du moins, mais en même temps, c'est les Européens.
Il y a la Grande-Bretagne, ce n'est pas l'Union Européenne. Les Européens.
Pourquoi Poutine cible la France, justement? Emmanuel Macron, c'est juste parce qu'on a ce ressenti-là, parce qu'on... Non, il cible moins l'Allemagne.
La France s'est mise beaucoup
en avant. Emmanuel Macron s'est mis beaucoup en avant.
Alors que le chancelier Scholz, d'abord, il est occupé à plein temps par la gestion de sa coalition, très compliquée, et il dit presque rien.
Oui. Est-ce qu'il y a un risque parce que je voudrais qu'on garde quand même quelques minutes pour parler de ce qui se passe au Moyen-Orient. Est-ce qu'il y a un risque d'extension du conflit? On voit en Transnistrie, à nos frontières. Vous croyez une invasion des pays baltes, la Transnistrie? Est-ce que
moi je vois pas comment, pourquoi Poutine, qui aurait pu attaquer assez facilement en 2022, si c'était vraiment son but. Moi je pense qu'il obsédait comme l'était Yeltsin avant lui. Et d'ailleurs, même les opposants à Poutine pensent comme lui sur ce sujet. Il ne faut pas l'oublier, ça. Donc, il a attaqué que l'Ukraine. Il a raté la mainmise sur l'Ukraine. Ouais. Donc, il est dans le Donbass, en quelque sorte. Pourquoi il attaquerait maintenant, ou en 2025-26, alors que l'esprit de défense a été réveillé dans toute l'Europe, dans l'OTAN, dans toute l'Europe. Ouais. Les neutres ont rejoint l'OTAN. Il y a du réarmement partout. Les Baltes ont monté un système avec un mur défensif important dans tous les pays baltes par rapport à leurs voisins de l'Est.
Donc, sans doute,
ça me paraît absurde, mais comme il faut deux précautions valent mieux qu'une, et on ne sait jamais, moi j'approuve à fond tous les renforcements conventionnels dans les pays baltes et en Moldavie.
Oui, puis il faut rappeler qu'il y a quand même une élection, il faut le dire vite, le 17 mars, donc là, dans quelques jours, élection présidentielle russe. C'est peut-être pour ça les bruits de bottes sont juste de ressort de cette élection.
Non, ça ne change rien, c'est connu d'avance. Ça ne change rien.
Oui, non, ça c'est connu d'avance, c'est pour cause. Il n'y a personne. Sur Gaza, l'enfer à ciel ouvert, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il y a l'amorce d'une solution? Chaque fois, on l'entend.
J'ai noté il y a 3 semaines que même après les horreurs de l'attaque du Hamas, abominable, il y a quand même aujourd'hui, alors il y a évidemment l'horreur de la guerre de Gaza qui est la réponse, le résultat, il y a quand même environ 30% ou un peu plus d'Israéliens qui acceptent de revenir à l'idée d'une solution à 2 États. Non, mais après le traumatisme du Hamas, ça devrait être à 0%, cette thèse.
Oui.
Alors, je sais bien que 25% d'entre eux veulent virer tous les Palestiniens, comme un peu dans les guerres indiennes aux États-Unis, mais il y a quand même un tiers. Et vous avez noté que Biden, qui n'est pas du tout obligé pour des raisons américaines, il parle depuis le début de retrouver une voie vers un État palestinien. Donc, l'idée de la solution à 2 États était morte déjà, puisque Netanyahou avait proclamé que c'était fini. Elle peut renaître. C'est l'espoir d'un sorte de camp de la paix très minoritaire, très courageux, où il y a beaucoup d'anciens militaires. Il n'y a pas que des idéalistes.
Ouais.
Je sais que c'est une hypothèse très fragile, mais on ne peut pas...
Mais qu'il faudrait lancer, il faudrait qu'elle avance en tous les cas.
Non, il faudrait qu'elle déparme Netanyahou.
Oui.
L'arrivée de Gantz, etc. Bon. Mais on voit que Biden, Blinken et Sullivan attendent ça, en fait. Bon, donc je sais bien que c'est très fragile... Mais ce n'est pas totalement impensable.
Hubert Védrine, vous avez, parce qu'il nous reste juste 3 minutes, vous avez, donc je le disais, à diriger cet ouvrage collectif sur les grands diplomates. Juste une question avant. Est-ce que pour vous, Dominique de Villepin est un grand diplomate?
Il était un grand ministre, grand diplomate, ses négociations, oui. Grand ministre, notamment par un discours magnifique, où il exprimait la position de Chirac et la sienne.
Alors, je voudrais vous le faire écouter dans un...
Mais il n'y a aucun contemporain français dans le
pouvoir. Oui, attendez, donc, je voudrais qu'on vous...
Personne n'est méchamment exclu,
vous voyez. Je voudrais que vous écoutiez Dominique de Villepin, qui était face à Apolline de Malherbe. C'était un face-à-face assez tendu, notre concert de BFM TV. On l'écoute, et puis après, évidemment, vous aurez le droit à répondre. On écoute Dominique de Villepin. Qui vous paye ?
Personne ne vous paye ?
Non.
Ah bon,
non.
Mais vous avez une société, vous faites du business, vous l'avez dit, vous faites des missions de conseil. Je voudrais, mais en toute transparence, et justement pour pas qu'il y ait de fantasmes ou de rumeurs...
Vous posez cette question à Hubert Védrine ?
Eh bien voilà, je vous la pose, qui vous paye ? Là, c'est de la question, c'est parce qu'on disait que Dominique de Villepin, on dit qu'il est financé par le Qatar, enfin en tous les cas, qu'une large, grande partie de ses revenus sont, proviennent du Qatar. Alors, je vous pose la question, paye, Hubert Védrine ?
Une société concède, je ne travaille pas. Aucun gouvernement, ni français, ni étranger, à aucun moment. Ouais. D'autre part, Dominique, après, il m'a envoyé un message en disant « je m'excuse de l'avoir mis en cause ». J'ai répondu « il n'y a aucun problème, tout le monde sait que j'ai une société de conseil ». Il y a zéro problème.
Ouais. Et il y a un problème si jamais il est financé par le Qatar ? Pas financé, si jamais il a...
J'en sais rien.
Ouais.
Je ne suis pas là pour étudier le cas de Dominique.
Non, mais de se faire payer par des gouvernements, ça pose un problème, plus que par des entreprises.
Pour spéculer sur des spéculations.
Ouais.
Moi, je sais qu'on est plutôt en phase, lui et moi, en ce moment, sur les grands enjeux. Ukraine, Proche-Orient, etc. Et ça me suffit.
Alors, si, comme il nous reste deux minutes sur les grands diplomates, un livre que vous publiez chez Perrin, pour ceux qui nous regardent à la télévision, vous allez pouvoir voir la couverture. Vous remontez à quand ?
On démarre avec Mazarin.
Oui, et il y en a combien
Richelieu,
en total ?
Qui était tout en haut de la hiérarchie, selon Kissinger, mais il est très, très, très connu. Donc, on va de Mazarin, un peu de 21e. Il y a comme Boutros-Ghali, Kofi Annan, Kissinger qui vient de mourir, mais bon. Qui était ministre avant, et Lavrov, parce qu'il faut avoir un tableau complet.
Donc, le ministre des Affaires, évidemment, russe, ministre des Affaires étrangères, très important.
On a mis des gens qui ont été là longtemps. Et d'ailleurs, dans la post-phase, je dis qu'il n'y aura plus l'équivalent dans l'avenir, parce que d'abord, les numéros 1 mangent l'activité, pour des raisons...
C'est le cas partout, c'est le cas en France, mais est-ce que c'est le cas partout ?
C'est plus vrai dans les démocraties. Partout, il n'y a pas de cas français particulier. Et d'autre part, il faut du temps pour bâtir ça. Donc c'est un autre monde. Mais comme on n'est pas dans la communauté internationale sympa des Boy Scouts, j'ai compris ça, enfin je crois, on n'est pas non plus dans la guerre froide, c'est plus compliqué, avec tous les sujets d'instabilité. C'est pas sans intérêt, en dehors de la passion pour l'histoire que j'ai, qu'ont plein de lecteurs, de revenir à l'époque pour voir comment ces gens qui étaient les maîtres du monde à l'époque, les fabricants des politiques en Europe, comment ils ont géré bien ou mal les équilibres et déséquilibres des forces. C'est intéressant pour nous maintenant.
S'il y en avait un, votre top one, c'est qui ?
Non, il n'y en a aucun globalement.
Il n'y a pas une personnalité quand même qui, qui vous fait fantasmer, Hubert Védrine.
Non, ils sont tous passionnants, mais il faut prendre des séquences. Par exemple, Talleyrand au Congrès de Vienne,
c'est
génial. Ouais. Mais pas tout Talleyrand. Kissinger, analyse formidable. Donc, il n'y a aucun qui soit globalement. Ou alors, je citerai Vergène. Qui, comme moi, je combats les idées chimériques à la française, lui disait « je combats les idées métaphysiques ». Et il pensait que la France n'avait plus besoin à l'époque de conquérir de nouveaux territoires. La France était dominante à l'époque.
À l'époque,
c'était incroyablement courageux.
Voilà, reviens, Vergène.
Vous voyez, c'est des séquences.
Merci beaucoup. Donc, c'est Les Grands Diplomates et c'est publié chez Perrin. Et bientôt, vous allez publier, vous viendrez nous voir, un livre sur Camus, un livre plus personnel.
Très personnel.
Merci beaucoup d'être venu nous voir, Hubert Védrine. Tout de suite, on retrouve Thomas Osportas qui nous apporte l'essentiel de l'info.
BFM Business, l'info éco.
18h30 sur BFM Business, l'inflation a rebondi en février aux États-Unis à 3,2% sur un an après 3,1%. Au mois de janvier, la hausse des prix a été tirée le mois dernier par les prix du logement, de l'essence et des billets d'avion. Et ça devrait inciter la Fed au statu quo la semaine prochaine lors de sa prochaine réunion des 19 et 20 mars. Joe Biden reconnaît qu'il reste, je cite, « encore beaucoup à faire pour réduire les coûts et donner une chance équitable à la classe moyenne ». Decathlon a présenté aujourd'hui son nouveau plan stratégique et veut tout remettre à plat, notamment en simplifiant son portefeuille de marques, qui va passer de plusieurs dizaines à une grosse douzaine. Des marques qui vont d'ailleurs, pour certaines, pouvoir être vendues en dehors des magasins Decathlon. L'enseigne veut aussi réduire ses émissions carbone de 20% dans les deux prochaines années. Ça bouge aussi chez Maisons du Monde, en grande difficulté, après une baisse de 74% de son résultat net l'année dernière. et qui annonce un gros plan de restructuration avec dans les trois prochaines années 85 millions d'euros d'économies à réaliser et le passage en franchise de 30% du réseau de magasins. Et puis pour finir, la section de lutte contre la cybercriminalité du parquet de Paris a ouvert une enquête après les attaques informatiques qui ont visé plusieurs ministères depuis dimanche. On vous en parlait hier soir sur BFM Business. Les responsables de l'attaque risquent 10 ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende. 18h32, tout rond. On marque une pause et on se retrouve dans un instant avec Audrey Tcherkov et nos experts dans Good Evening Business. A tout de suite.
BFM Business, élu média de référence sur l'économie. BFM Business, premier sur l'écho. Good Evening Business. Actu, experts, débat et interview des grands acteurs de l'économie.
18h35 sur BFM Business. On commence évidemment, Thomas, avec le rapport annuel de la Cour des comptes présidé par Pierre Moscovici. Dans les experts ce soir, Jean-Marc Sylvestre, bonsoir. Bonsoir. Éditorialiste à Atlantico et puis Edwige Chevrillon, vous êtes resté avec nous. Bonsoir. Donc, Pierre Moscovici nous dit, alors comme chaque année, ça c'est pas une grande surprise, hein, que nos finances publiques ne vont pas bien, qu'elles vont plutôt même très mal. La grosse différence quand même cette année, c'est que ce rapport est publié à quelques jours des annonces du gouvernement sur les 30 milliards d'euros d'économies qui sont lancés. Mais un, la Cour des comptes dit que ça ne suffit pas et deux, que la méthode annoncée par le gouvernement n'est pas bonne non plus. Est-ce que c'est grave, docteur Jean-Marc ?
Ben, moi, je pense oui, effectivement, c'est assez grave. Il y a une dimension technique, économique, qui nous éclaire sur les finances publiques, parce que les rapports de la Cour des comptes sont quand même sérieux et suivis. C'est assez rare, quand même, qu'un rapport de la Cour des comptes sort, disons, trois jours après une annonce importante du ministre de l'Économie, qui a d'ailleurs aussi, lui aussi, hésité. Il a annoncé en deux fois. Oh. Une première fois à 10 milliards, et puis une seconde
c'était
fois...
C'était une erreur.
Une erreur et qui montrait...
Et même à trois fois, parce que c'était 10 plus 10, puis finalement 20.
Voilà. Donc c'est effectivement un peu troublant et ça pose une question de transparence ou de...
Ou de préparation.
Ou de préparation. Alors, que dit le rapport de la Cour des comptes rapidement ? Il est très sévère. Moscovici est toujours très sévère dans les rapports de la Cour des comptes. Il a pourtant une expérience de ministre de l'économie.
Ses prédécesseurs aussi avant lui. Hein.
Oui, ses prédécesseurs.
La Cour des comptes est sévère, c'est ça. Elle est payée
pour ça. Donc c'est pas une surprise.
Elle a le beau rôle.
C'est pas une surprise. Elle a le beau rôle. Alors, elle critique effectivement la méthode qui est utilisée par, ou qui est envisagée par le ministre de l'Économie, qui est de raboter un certain nombre de dépenses pour pouvoir réussir à rééquilibrer les finances de la ville. Mais il ne dit pas laquelle il préférerait, quelle est la situation alternative qu'il préférerait. On pourra peut-être en parler tout à l'heure. Mais je pense qu'effectivement, ça ne suffira pas à réduire le déficit et donc à réduire la nécessité de l'endettement. Un endettement qui va devenir problématique parce que si jamais ces prévisions-là sont réalisées, il est vraisemblable que le taux de risque de la France, la signature française, en prenant un coup via les agences de notation, donc le taux d'intérêt aussi.
Ouais, qui vont se prononcer à partir du printemps, hein.
À partir d'avril déjà, hein, pour les premières.
Ce sont les mots de Pierre Moscovici qui sont assez chocs. Il dit nous sommes face à une montagne de dettes, nous sommes face à un mur d'investissement. Je trouve très très critique par rapport quand même aux prévisions du gouvernement en disant de manière elles étaient pas tenables. Donc et même là ce qu'il nous a dit 4-4 de déficit public, c'est pas tenable. Il faut aller il faut tenir cet objectif. C'est là où il est quand même un peu alarmiste et alarmant parce que il dit, c'est 4-4, si on ne le tient pas, là, c'est notre crédibilité qui est vraiment en jeu. Et donc, en plus, il dit par rapport à là où est-ce qu'on peut faire les économies, ce n'est pas les 10 milliards de rabots, c'est même un petit peu en dessous. Il faut une vraie politique, et puis rien n'est sanctuarisé. La moitié de nos dépenses, ce sont des dépenses sociales. Il faut trouver des solutions, il faut une vraie restructuration du fonctionnement de nos dépenses publiques. C'est la manière dont il le dit, je trouve, qui est assez forte et peut-être un peu plus fort que d'habitude. En tous les cas, c'est moi ce qui m'a frappé en écoutant Pierre Moscovici.
Oui. Mais Edwige a raison.
Jean-Marc.
Il est très sévère. Et mon sentiment, c'est qu'il a une arrière-pensée politique. C'est-à-dire qu'il a une attaque politique directe envers Bruno Le Maire.
Je ne sais pas.
Parce que la question se poser très rapidement.
Question d'égo entre.
C'est qu'il y a des question d'ego, ils ont été
entre deux patrons de Bercy
et que tout le monde sait, ça n'est un secret pour personne, que Bruno Le Maire a des ambitions présidentielles pour la suite des événements. Donc beaucoup de gens dans la majorité et a fortiori dans l'opposition vont le considérer, Bruno Le Maire, comme comptable, responsable et même coupable de la situation financière si elle est mauvaise.
Mais, je pense. Mais en même temps, Jean-Marc, quand on regarde la situation, on a un déficit de l'État qui explose. Le déficit de l'État seul, hein, hors collectivité et hors administration, rien qu'en janvier, 300, en janvier 2024...
300 milliards à peu près.
Oui, absolument. Mais en janvier, en un mois, on a 25 milliards d'euros. C'est un record absolument historique.
Mais ce que je veux dire, c'est que le ministre de l'Économie, c'est l'équivalent dans une entreprise du directeur financier. Le directeur financier, il enregistre les dépenses et il enregistre les recettes. Il n'est pas comptable de la stratégie qu'utilise le président ou le comité directeur. Bon, donc, il y a une stratégie derrière tout ça.
Parce que quand il dit le quoi qu'il en coûte, c'est terminé, c'est fini, il l'a dit, c'est faux, c'est complètement faux. Non, mais, et du reste, c'est ce que dit Pierre Moscovici, le quoi qu'il en coûte, regardez en 2023, c'est pas du tout fini.
Le quoi qu'il en coûte, attaché au confinement et attaché au Covid, oui, c'est fini. Oui. Ce qu'on peut reprocher au gouvernement...
C'est plus 800 milliards l'augmentation des dettes entre de la dette publique entre 2019 et 2023.
Oui, c'est la facture des deux crises.
Oui. On a le sentiment qu'on a ignoré effectivement la dégradation de la croissance économique. On a fait un peu le modèle Tirol au début de la crise, à savoir que si on a un taux de croissance qui est supérieur au taux de la Martingale,
ça pouvait Emmanuel marcher. Macron, bien sûr.
Donc on s'endette et effectivement on s'est quand même beaucoup endetté à des taux qui sont très très faibles. Hein, la moitié de l'endettement français est à 0 ou 1% aujourd'hui sur 10 ans. Donc ça ne coûte pas encore très cher, mais ça va augmenter.
Le cap que donne Pierre Moscovici, comme vous le dites, ce n'est pas 10, ce n'est pas 20, ce n'est pas 30, c'est 50. Voilà. Il dit, si on veut repasser sous les 3% de déficit en 2027, qui est le cap fixé par Emmanuel Macron et Bruno Le Maire, il dit qu'il faut faire 3%, et 3 en 2027. Ouais. Ça, c'est la feuille de route donnée à Bruxelles, hein, d'ailleurs, du gouvernement. Bon, si on veut repasser sous les 3%, il faut faire 50 milliards d'économies dans les 3 prochaines années.
Oui,
ce n'est jamais arrivé.
Oui, mais pourquoi 50 milliards ? 50 milliards, c'est exactement ce qu'on va payer cette année en termes de charges d'intérêt de la dette. L'année prochaine, on passe à 75. Donc 50 milliards, c'est quand même le minimum. Alors maintenant, la question, c'est comment est-ce qu'on va les trouver ? Et pour en revenir à ce que vous disiez, Jean-Marc, c'est quand même normal qu'on tienne pour responsable un ministre de l'économie et des finances quand on voit qu'en France, depuis 2020, la dette publique augmente de 750 milliards d'euros. Et en face, sur la même période, on a un PIB qui n'augmente que de 350 milliards. Le calcul est facile à faire.
Que vous le trouviez normal ou pas, c'est aussi normal que le ministre des Finances suive la stratégie et les directives que lui donne son président.
Ah oui, chaque fois qu'Emmanuel Macron sortait là en 2020,
il sortait avec les gilets jaunes. Les banlieues,
mais d'accord, mais donc les ministres ne sont responsables de rien dans ce pays.
Eh bien, les ministres sont responsables de l'exécution de leur ministère. Mais vous savez très bien comment il faut les ministres.
Enfin, ils sont censés aussi participer à la stratégie et à la feuille de route.
Ils font le siège de l'Élysée et de Matignon pour avoir des augmentations de budget. Ouais. La valeur d'un ministre aujourd'hui se mesure à la grosseur du budget qu'il obtient lors des arbitrages.
C'est comme un patron du CAC 40. Il faut qu'il soit très très bien payé, sinon il n'est pas respecté.
Mais alors, juste une dernière question là-dessus.
C'est la même absurdité. C'est la même absurdité.
Une dernière question là-dessus, et après on y reviendra évidemment dans la deuxième heure de Good Evening. Est-ce que vous pensez, au vu de tout ce qu'on a dit, Bruno Le Maire capable de faire cette année 20 milliards d'économies structurelles et 50 d'ici 2027? Ou est-ce que c'est complètement illusoire là? C'est juste des incantations de Pierre Moscovici.
Ils prennent le problème un peu par les mauvais bouts. Mais d'abord, c'est on met la main sur l'assurance chômage, comme par hasard, il y a un pactole dessus. C'est pas du tout. C'est toujours d'abord les gens les plus faibles qui vont traquer, les 2 milliards d'impôts sur les classes moyennes. Là aussi, on ne sait pas visiblement comment il va pouvoir les donner. Et pas de hausse d'impôts, parce que c'est vrai que les impôts sont déjà très très élevés en France. Mais est-ce qu'il faut
lui-même le dit.
Oui, mais est-ce qu'il faut pas quand même trouver une taxe une taxe momentanée sur les riches, sur les dividendes, parce que on ne peut pas toujours taxer les chômeurs, les gens les plus modestes. C'est à un moment ça va
vous avez raison, Edwige. D'autant qu'il n'y a eu aucune annonce concernant la réduction des frais de fonctionnement de l'État, qui augmente de 23 milliards d'euros par an.
Ouais. Non, il va falloir que le ministre, le Premier ministre ou le Président de la République ait le courage d'annoncer des réductions au niveau du périmètre de l'État. On ne s'en sortira pas autrement.
Il faut une réforme de l'État.
On ne s'en sortira pas autrement. C'est que les dépenses, qui partent tous azimuts, le nombre de mesures de soutien, d'indemnisation, il y en a 500 ou 600. On vient de sortir un nouveau logiciel d'ailleurs pour s'y repérer. Je ne sais pas si vous avez vu, l'État a fait ça. Donc il va falloir supprimer complètement. Je ne veux pas dire qu'on
ça s'appelle la revue des dépenses publiques.
Mais on verra. Voilà. Qu'il y a une digitalisation.
La dernière n'était pas concluante.
Voilà, mais on n'a jamais eu lieu. Attendez,
ouais. Non, bah, parce qu'il y a eu lieu, mais sans résultat.
Ça ne veut pas dire que le service au public va diminuer. Il peut être rendu dans un cadre privé.
Regardez, si on fait un tour de table ici, on voit bien que la digitalisation des services publics, elle est énorme. Elle est très bien faite, du reste.
Sur les impôts, ça a marché.
Ça
marche beaucoup de choses. Donc derrière, il devrait y avoir des diminutions d'effectifs. Eh bien, pas du tout. Donc
c'est l'inverse, d'ailleurs.
C'est l'inverse, puisqu'il y a une hausse.
On a engagé encore 60 000 fonctionnaires.
Absolument. Alors, beaucoup dans les collectivités locales. Hein. Donc c'est un petit peu différent, mais enfin,
Alors, c'est quand même l'État. On passe maintenant à... On était dans la fonction publique, on passe maintenant dans le privé, avec le directeur des études de l'APEC qui nous a rejoint en plateau. Bonsoir, monsieur.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous, Pierre Lambin. On vous a demandé de venir parce que vous avez publié cette étude ce matin qui fait pas mal de bruit, qui nous dit que les cadres sont devenus addicts au télétravail. Ils ne peuvent plus s'en passer, visiblement, d'après votre étude. On a à peu près la moitié des cadres qui démissionneraient si on leur enlevait la possibilité de télétravailler. C'est quand même
tout à fait. Tout à fait.
Donc et pourquoi ? Enfin, on croyait avoir compris que visiblement, on croyait visiblement que le télétravail était devenu un peu moins populaire.
Alors le télétravail,
perçu comme un acquis social.
Le télétravail est bien installé dans l'organisation du travail des cadres, hein, puisque aujourd'hui on a 2 cadres sur 3 qui télétravaillent au moins un jour par semaine.
Quel jour ?
Alors,
les
jours les plus, on n'a pas questionné les cadres sur les jours.
Non, c'est dommage. Non, mais on sait, c'est les lundis.
Mais par expérience, notamment chez moi à l'APEC et dans mes équipes, j'ai 40 personnes dans ma direction et c'est plutôt le lundi et le vendredi, mais aussi le mercredi. Donc après, c'est comment on organise le travail de manière collective, intelligemment. Et quand ça se passe comme ça, les personnes s'adaptent et quand il faut venir tous ensemble, ils viennent le mardi ou le jeudi, voilà. Mm-hmm. Et je reviens donc à l'étude. Donc aujourd'hui, 2 cadres sur 3 télétravaillent au moins un jour par semaine. Je rappelle qu'on était quand même à 20% avant la crise du Covid.
Hein. Ouais, bien sûr. Personne n'en parlait du télétravail.
Donc voilà, ça s'est accéléré. Donc il est bien installé et il n'y aura pas de retour en arrière.
Ouais.
Puisque quand on leur pose la question, est-ce que vous souhaitez demain davantage télétravailler, on en a 8 sur 10 qui souhaiteraient travailler au moins un jour par semaine. Donc toujours davantage
mais
le cadre.
Les femmes.
Les hommes et les femmes.
Alors les femmes ont tendance à utiliser davantage que les hommes leurs jours de télétravail. Pour les raisons qu'on imagine, notamment pour
que
gérer.
Jean-Marc n'imagine pas, mais que nous on imagine.
Gérer leurs horaires, les imprévus.
Mais Jean-Marc n'avait rien dit.
Mais voilà. Que...
Non, mais alors attendez, parce que vous me dites que il n'y aura pas de retour en arrière de la part des cadres. On comprend bien cet amour pour le télétravail. En revanche, de la part des entreprises, quand on voit qu'aux États-Unis, notamment, des très grosses entreprises comme Amazon ou Google reviennent complètement dessus et elles ont tendance à être souvent en avance de phase sur ces sujets-là. Est-ce que vous pensez que c'est un risque aussi une tendance
en tout alors cas, côté entreprise, on observe comme une évolution. Puisqu'on suit ce sujet-là depuis quelques années, hein, comme d'autres sujets sur les pratiques managériales, les pratiques de recrutement, de fidélisation, tout est lié aujourd'hui. Et le télétravail constitue un vrai critère un facteur d'attractivité justement pour attirer des compétences dans un contexte qui, je le rappelle, de fortes tensions de recrutement. Hein.
Non mais d'accord, mais il y a aussi des grosses entreprises en France comme Publicis par exemple, qui a fait des annonces publiques et officielles en disant qu'ils étaient contre le télétravail et qu'ils revenaient dessus.
L'Oréal aussi,
oui.
Après, on ne peut pas non plus aller à l'encontre des aspirations, des attentes des cadres, hein, puisque vous l'avez évoqué, on a 1 cadre sur 2 qui quitterait une entreprise, qui supprimerait du jour au lendemain le télétravail. Et c'est fait partie des critères qui poussent les cadres à démissionner de façon précoce. Hein. Quand je dis de façon précoce, c'est notamment dans les 2 années qui suivent l'embauche. On l'a étudié, hein, ce sujet-là. On est à 22% de cadres qui démissionnent de façon précoce, 42% chez les moins de 35 ans.
Oui.
Et les moins de 35 ans sont attachés au télétravail aussi comme,
ça n'empêche
comme leurs aînés, hein, quel que soit l'âge.
D'avoir l'air un peu dubitatif.
Ouais. Non, je suis très dubitatif parce que ça dépend énormément de la qualité de la marque employeur. Parce que si la marque employeur de l'entreprise est bonne, il y a une liberté d'organisation qui suit et il y a une fidélité des cadres dans cette entreprise.
Oui, bien sûr.
En plus, on peut vous donner des exemples. Dans le même même secteur d'activité, je pense à l'agroalimentaire. Ouais. Vous avez une entreprise très brillante cotée en bourse où c'est la liberté d'organisation, oui, et la responsabilité totale jusqu'à un niveau relativement en bas. Et puis dans une autre de ces entreprises où c'est plutôt le régime plus autoritaire et l'infidélité est quand même beaucoup plus...
Alors se rajoute à la marque employeur la promesse employeur.
Oui, hein,
parce qu'à un moment donné, s'il y a un décalage... Ah, ce sont deux choses différentes.
Alors allez-y, expliquez la différence.
Et la promesse employeur, c'est vraiment, on l'a constaté notamment, j'ai évoqué les démissions précoces, s'il y a un décalage trop fort à un moment donné entre la promesse tenue à l'embauche et la situation à l'instant T, six mois, un an après l'embauche, en matière d'évolution professionnelle, de rémunération, ou le fait que le télétravail n'est plus d'actualité.
Oui, parce qu'il y a un pacte de confiance.
Les gens partent. C'est pour ça qu'on est à 42% de démissions précoces chez moins de 35 ans.
Et
deux choses d'abord. Juste un petit point encore sur votre étude. Est-ce que, en termes d'augmentation, est-ce que les gens qui sont présents, est-ce qu'ils sont plus augmentés que ceux qui sont en télétravail?
Bonne question.
Le problème existe aux États-Unis.
Oui, c'est pour ça.
Prouve ce que tu viens.
Voilà. On l'a pas constaté.
Vous faites deux questions pour la prochaine fois.
Oui. Non, mais on l'a pas constaté. Alors, si on parle rémunération, j'aimerais quand même évoquer, puisqu'on parle des femmes, le vrai sujet, hein, puisque je rejoins ce que vous dites, hein, c'est pas un vrai sujet dans les grandes entreprises, hein, qui le pratiquent, qui savent le pratiquer le télétravail, mais le sujet de rémunération, des écards de salaire entre les femmes et les hommes reste quand même un vrai sujet, et c'est assez affligeant de constater quand même que l'écart à profit des postes identiques, hein, chez les cadres, ne s'est pas réduit depuis qu'on le mesure.
Il est de combien chez les cadres?
Plus de 15 ans. On est sur 7% d'écart.
Malgré le fameux indice.
Oui. Malgré l'index professionnel. Dont la PEC en pense tout le bien, bien évidemment.
Mais il a ses limites. Sans passer par les mesures coercitives, rien ne bouge.
Il faut des quotas, et puis voilà.
Bien sûr.
L'indice, on paye une amende, et puis voilà, comme ça, on continue, on fait business as usual. Non, plus sérieusement, ce qui est intéressant, c'est de voir que le télétravail, en fait, ça transforme la culture de l'entreprise. Ce qui est très difficile ensuite pour des dirigeants d'entreprise, c'est de quand même créer un consensus au sein d'une entreprise, de créer une culture d'entreprise. Parce que c'est ce qui manque très souvent, d'où le côté
l'esprit d'équipe.
Ping-pong, je rentre, je sors, je quitte mon job, j'en prends un autre. Il n'y a plus du tout d'affecto sociétatis comme nous, on a pu le connaître. Alors, c'est très bien, par certains côtés, mais je pense que le télétravail fait cette rupture et c'est toute la difficulté aujourd'hui.
C'est toute la difficulté qu'ont les managers, justement, ce qu'on a bien perçu dans nos baromètres, justement, ce savant équilibre, dosage, si je puis dire, à trouver entre le suivi individuel et les cadres privilégient le télétravail pour les tâches individuelles et l'animation du collectif. Comment créer du collaboratif, du collectif avec le travail hybride? Et c'est toute la difficulté que peuvent rencontrer les managers.
Oui, alors d'ailleurs, c'est vrai que ça s'illustre aussi quand on regarde les courbes et les études sur le lien entre la productivité et le télétravail. En fait, on a une courbe en U inversée et jusqu'à 1 à 2 jours par semaine, la productivité augmente et après ça baisse. Donc c'est encore une fois une question de juste milieu.
Oui, c'est une question de dosage, de curseur. Et le curseur aujourd'hui, il est sur 2 jours de télétravail par semaine, puisque pour 50% des cadres aujourd'hui.
Après, quand ils reviennent travailler dans les bureaux, et bien très souvent, même pour des réunions, ils continuent à se mettre en digital et ne pas. Ils restent assis à leur bureau.
Ça, c'est une question de management.
Ils ne bougent pas. Voilà. Et donc, même les réunions, quand les gens sont en présentiel, se passent en distanciel.
D'où l'importance de bien former et d'accompagner les managers, en effet, pour
assurer que... On a tous été confrontés à cela.
Du privé, il nous reste 2 minutes. Je voudrais quand même vous faire réagir à cette petite pique d'Emmanuel Macron, cette fois-ci sur les cadres du public, sur les hauts fonctionnaires. Il dit justement, je ne veux pas que vous soyez des fonctionnaires. Il en a réuni 700 ce matin. Hein. Ouais. Les cadres dirigeants, il dit, mais je ne veux pas que vous soyez des cadres dirigeants ou des hauts fonctionnaires. Je veux que vous soyez des managers de l'État. Il a secoué. Ayez cette culture du risque, ayez cette culture du résultat, même comme dans le privé. Est-ce que vous pensez qu'on peut gérer l'État comme une entreprise?
Il l'a fait en présentiel.
Il l'a fait en présentiel. Il y avait quelques cadres en distanciel.
S'il était géré comme une entreprise, il y aurait un déficit un peu moins important.
Qu'est-ce que vous pensez de ça, vous, à la PEC? Est-ce qu'on peut gérer l'État, une administration?
Alors, on a fait des travaux qui datent. Ça mériterait d'être réappréhendé, mais on a fait des travaux sur les comparaisons entre privé et public, notamment sur les compétences recherchées. C'est ce qui compte, ce sont les compétences qu'on recherche pour les postes dans le privé comme dans le public, et sur des fonctions qui sont assez similaires, qu'on va retrouver aussi bien dans le privé que le public. Prenons un exemple dans l'informatique, dans les achats, il y en a au privé comme au public, on recherche les mêmes compétences. Donc il y a convergence, oui, y a pas de raison, comme on l'a observé. Donc le type de posture adapté
et similaire. C'est peut-être après, la culture du top management. On voit d'ailleurs beaucoup de livres d'anciens hauts dirigeants de l'État qui font leur mea culpa. Hein.
Non, mais la culture du résultat à mettre en place sur tout.
La culture des résultats, bien sûr, s'impose.
Pour finir l'un et l'autre. Ouais.
Non.
Jean-Marc,
la seule chose sur laquelle je m'interroge, c'est que dans le privé, les facteurs de motivation, ils sont très souvent liés à la rémunération, laquelle rémunération est liée à la performance et aux résultats, ce qui n'est pas le cas dans la fonction publique, et c'est lié également à la concurrence qui peut exister entre les différents cadres, ce qui n'est pas le cas dans la fonction publique, parce qu'à mon avis, à ma connaissance, il n'y a pas de concurrence dans la fonction publique. Donc, on ne peut pas réunir son staff personnel comme on le fait dans une convention d'entreprise pour les motiver.
Oui, enfin,
mais là, sauf erreur, on parle des hauts fonctionnaires. Les hauts fonctionnaires à comparer avec les cadres dirigeants et les top managers.
Et sans vouloir faire de polémique, le président d'une grande entreprise, quand il réunit ses top managers, c'est pour leur définir une stratégie. On va dans cette direction-là et on y va avec tel moyen. Je ne suis pas sûr que le président de la République, mais là encore,
je ne peux
pas
faire ça. On en reparlera, on est là jusqu'à
20h. Ça fait le lien en 20 secondes avec notre premier sujet, c'est où trouver des économies. Donc, c'est les réformes de l'État, l'efficacité de l'État. Ouais. Peut-être que ça passe par là jusqu'à un certain point, parce que quand même un fonctionnaire public, il rend un service public. Donc, c'est effectivement quelque chose d'un peu différent. Mais il faut intéresser...
Il faut savoir qu'il a la stabilité de l'emploi, non ?
Oui.
En général.
Oui, de moins en moins. Comme de moins en moins.
De moins en moins ?
Oui.
Bon. C'est pas laissé.
Enfin, plus, qu'on vous plus quand même que dans le secteur privé.
Merci à tous les trois. Pierre Lemblin, directeur des études de l'APAC. Merci Edwige Chevrillon, votre invité demain. D'un mot dans la grande interview, Edwige, demain, votre invité.
Demain, c'est Stanislas de Bensman, qui est le cofondateur et coprésident de Devoteam. Il travaille beaucoup dans tout ce qui est intelligence artificielle, cybersécurité. Mmh. Il forme des entreprises, justement, pour faire attention. Il a fixé une sorte de radar et dans lequel il met des critères, qui est des critères qui seront indispensables pour la gestion des entreprises aujourd'hui.
Bon, on verra ça demain, avec notamment le fameux rapport sur l'IA qui est remis à Emmanuel Macron.
Voilà.
À l'Élysée, Jean-Marc, merci d'avoir été avec nous. On vous retrouve tout à l'heure pour le grand débat de Good Evening avec nos experts, Audrey.
Alors justement, on ne vous en dit pas plus. En tout cas, c'est un casting explosif et on décrypte l'actu économique pour vous. À tout de suite.